Étudier sans être sélectionné, est-ce un droit ? Si tous les bacheliers peuvent entrer à l'université, existe-t-il un palier auquel il devient nécessaire d'opérer un tri entre les étudiants ? Et si oui, à quel niveau ? En Master 2, par exemple, c'est la question qui déchaîne les passions à l'université. Et c'est notre débat en ce dimanche 17 avril. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Au programme de cette émission enregistrée en début de semaine, pas vraiment de page d'actualité, mais nous allons revenir sur la mobilisation des grandes organisations de jeunesse sur la loi travail. Avec vous, Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de l'étudiant. Bonjour.
Bonjour, et nous parlerons des manifestations étudiantes et lycéennes, évidemment, avec nos invités et surtout de ce qu'ils ont obtenu du gouvernement.
Rue des Écoles, attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka est à la réalisation, à la technique, Jean-Guilain Meige.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Fouré.
La sélection est-elle une atteinte au droit à la liberté ou à la démocratie? On parle évidemment d'enseignement supérieur. La sélection est-elle nécessaire au contraire au maintien du niveau des diplômes, de leur cote ou finalement au prestige des universités et de l'université en général? Le 10 février dernier, le Conseil d'État rendait un avis qui indiquait qu'en vertu de l'article, attention, 612-6 du Code de l'éducation, aucune sélection ne pouvait être mise en place à l'université. Et lundi prochain, le 18, le CNESER, qui rassemble toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donnera un avis, c'est consultatif, mais c'est un avis important, sur le fameux décret master, un texte qui donnera, qui donnerait une liste, sur demande du Conseil d'État, des Master 2, attention, autorisés à sélectionner les étudiants de Master 1 de la même université qui veulent continuer. Alors ça paraît comme ça un peu technique, mais en fait, comme je le disais en début d'émission, c'est un grand débat de savoir comment la sélection doit s'opérer. Un débat que nous allons mener avec nos invités. Paolo Tortonese, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne Nouvelle et membre de l'association Qualité de la Science Française, QSF. Quel est l'objectif de cette association ?
Oh, l'association QSF est une association d'universitaires, c'est-à-dire de professeurs et de maîtres de conférences de l'université française qui cherche à donner des avis sur les politiques universitaires. Ce n'est pas un syndicat, c'est une sorte de groupe de réflexion qui donne des avis sur les politiques universitaires sans grand succès jusque-là.
Oui, parce que vous n'avez pas obtenu gain de cause. On a pu lire des tribunes, comme par exemple dans Libération, qui appelait à plus de sélection en Master 2 dans les universités. Face à vous, Lila Lebas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'UNEF. Vous êtes en Master 1.
Tout à fait.
Pas. Donc bientôt en Master 2, votre syndicat est très opposé à la sélection à l'université.
Oui, tout à fait. Nous, à l'UNEF, on est opposé à toute forme de sélection, à la fois à l'entrée de l'université, donc à l'entrée en L1, mais aussi en Master 1 comme en Master 2, puisqu'on pense qu'aujourd'hui, le droit à la formation, donc que ce soit à Bac plus 3 ou à Bac plus 5, ça doit être un droit pour l'ensemble des jeunes qui souhaitent le faire, puisque notamment, on le sait bien, aujourd'hui, le diplôme, c'est la meilleure arme qu'on a quand on est jeune face au chômage. Quand on voit bien, par exemple, que quand on est en Master 2, c'est ce 12% d'étudiants qui sont au chômage, alors que quand on est sans qualification, c'est 45% des jeunes qui sont au chômage. Et donc pour nous, c'est une clé importante que chaque jeune qui le désire puisse avoir accès à un Bac plus 5, qui est aujourd'hui la norme sur le marché du travail.
On va prolonger cette réflexion et on va voir combien vous vous opposez à Paolo Tortonese dans un instant. Alexandre Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes. Vous aussi, vous êtes plutôt opposé à la sélection à l'université. Je parle là du Master 2.
Plutôt opposé à la sélection à l'université. Si on parle d'instaurer des barrières sélectives entre le bac et la L1, entre la L3 et le M1, effectivement, on est totalement opposé à la sélection.
La maintenant, L1, attention, c'est la licence.
Hein. C'est la licence, effectivement. On est totalement opposé. Maintenant, attention au caractère démago de dire on est opposé à la sélection, parce qu'au final, valider un examen, mais c'est une forme de sélection. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, effectivement, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'UNEF, on a un objectif dans ce pays qui est de qualifier les jeunes pour les armer face à des parcours personnels qui vont être en mutation. On va alterner, on va avoir besoin de se requalifier tout au long de la vie. Donc, expédier le débat de la réussite et le débat de l'orientation en disant on va mettre une grande barrière qui va faire le tri entre les jeunes après le bac et une autre après la L3, non, ça c'est trop facile. Donc en ça, on est contre la sélection. La réponse elle doit être de l'orientation. La réponse, elle doit être de travailler sur la réussite. Mais effectivement, venir faire un grand tri entre la licence et le master, c'est niette, parce que seulement ça ne poursuit aucun objectif, en tout cas aux yeux de la FAGE.
Eh bien, il va y avoir du débat dans cette émission. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur l'actualité du mois de mars et du mois d'avril avec Marie-Caroline Missier. Au sens large, car nous parlons des mouvements étudiants et lycéens, évidemment, contre la loi travail, Marie-Caroline.
Oui, on rentre dans la cinquième semaine de mobilisation. Ça commence à être un mouvement important. Il y a une question qui nous titille depuis le début des concertations avec le gouvernement. C'est le rôle exact de la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans la mesure où les décisions qui peuvent arrêter ce mouvement ne relèvent ni de son périmètre, ni de son budget, comme la loi d'ailleurs. Quel rôle joue-t-elle dans les discussions avec vos différents syndicats ?
Et j'indique, pour être précis, que Najat Vallaud-Belkacem est bien de toutes les réunions avec les syndicats et que vous l'avez rencontrée ce lundi 11 avril.
Bien. La ministre Najat Vallaud-Belkacem, je pense, a eu le souci
Leroy.
Et a témoigné le souci de faire en sorte que les organisations de jeunes, pas seulement étudiantes d'ailleurs, puissent être entendues. Et je pense qu'on doit pas mal à la ministre sur le fait qu'on ait été reçu, notamment le 9 mars par Manuel Valls. Et effectivement, quand on voit la teneur des annonces aujourd'hui, et puis c'est ce qu'on dit à la FAGE depuis un mois, si on veut parler aux jeunes dans cette séquence politique, actuellement, il faut leur parler des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, qui sont la précarité. Mais la précarité, c'est la précarité d'accès au logement, mais aussi à la stabilité, à l'émancipation. Et ça, ça passe par l'accès à la formation. Donc je pense qu'il y a un rôle vraiment naturel de la ministre dans son débat, même si au même titre que Patrick Kanner, au même titre que Myriam El Khomri ou que même Emmanuel Macron qui était présent sur les premières concertations, j'imagine que c'est pas
jeunesse,
eux qui tranchent.
La jeunesse, le travail, l'économie.
Si on veut agir, voilà, nous on demande quelque chose de global et de transversal et je pense que c'est naturel effectivement qu'il y ait tous les ministres. En tout cas, ça a été bien reçu de notre côté.
Lila Lebas.
Vous l'avez dit, ça fait maintenant plus de 5 semaines que notamment les jeunes, à travers de plus de 22 organisations, appellent les jeunes à se mobiliser dans la rue avec 6 dates de mobilisation qui ont déjà eu lieu sur le retrait de ce projet de loi travail. Mais à côté de ça, toutes les organisations ont exprimé depuis le début des contre-propositions, notamment sur la question de l'insertion professionnelle des jeunes, puisque aujourd'hui, il y en a assez du bizutage social que connaissent les jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail. Et donc, les contre-propositions, il y en avait qui concernaient différents ministères, dont le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, comme par exemple sur l'aide à la recherche au premier emploi. Pour moi, c'est aussi important que la ministre de l'Éducation soit présente à ces discussions, comme par exemple la question de la revalorisation des bourses. Donc là, ce qui a été annoncé ce matin, c'était que l'ensemble des étudiants qui étaient donc échelon 0, donc seulement exonérés des frais d'inscription pour l'instant, passeraient dès la rentrée prochaine échelon 0 bis, donc auraient une aide de 1 000 euros par an. Donc ça veut dire déjà permettre à des jeunes d'avoir un peu plus d'argent tous les mois pour faire leurs études. Et donc comme le sujet était très large, c'était effectivement important dans les 2 derniers rendez-vous qu'il y ait des ministres, plusieurs ministres représentés pour répondre à nos contre-propositions.
Vous avez réussi à faire glisser un mouvement sur le travail, hein, je vous parle à vous, les syndicats étudiants, vers un mouvement de jeunesse, où en tout cas on parle énormément de la jeunesse. Nous avons noté avec Marie-Caroline que c'était là un sacré exploit.
Une question là encore pour vous deux, en quoi l'UNEF ou la FAGE sont-ils des mouvements représentatifs des jeunes actifs dans la mesure où vous représentez les étudiants ?
Je suis pas sûr qu'en France, on puisse regarder qui représente les jeunes actifs. Bon, il y a les syndicats. Mais si on commence à poser la question, qui représente les jeunes actifs? Qui représente les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation? Qui représente les jeunes apprentis? Qui représente les jeunes étudiants? Je pense qu'il y a des orgas qui prennent leurs responsabilités. La FAGE a pris sa responsabilité, parce que la FAGE est une organisation de jeunesse et d'éducation populaire qui a agrémenté pour l'être. On a pris la responsabilité de dire, au-delà du projet de loi El Khomri, de tirer la sonnette d'alarme auprès d'un gouvernement en lui disant, regardez dans quelle situation on est. On est dans la situation d'un pays qui a une protection sociale, qui s'est pas rénovée dans toutes les dernières décennies qu'on a connues et qui n'offre au final aucun filet de sécurité pour les jeunes. En même temps, on doit faire face à 25% de chômage, à une mutation de l'économie, digitalisation, numérisation, qui fait que les jeunes qui n'auront pas eu accès à la formation, on sait que pour eux, les parcours, ça sera de la précarité tout au long de la vie. Donc on a expliqué que au-delà du projet de loi travail, dont la philosophie, une fois qu'il a été remanié, nous convenait, au-delà de ce projet, il fallait apporter une réponse structurelle aux jeunes. Comment on tord notre système de protection sociale pour faire en sorte qu'il apporte des garanties très simples? Vous ne connaîtrez pas le déclassement, vous ne connaîtrez pas le décrochage. Ce n'est pas demander grand-chose. On a entendu certains éditorialistes nous dire « Dis donc la FAGE, vous êtes clientéliste ». Ça pourrait être vrai si on vivait dans un pays où la protection sociale est égalitaire entre les jeunes et les moins jeunes. Mais au final, on est très très loin de cette réalité.
Vous avez raison de profiter de cette émission pour répondre à d'autres éditorialistes. On va vous poser la même question, Lila Lebas, à laquelle j'ajouterai une autre interrogation. Nous avons vu dans le mouvement Nuit Debout qu'il y avait une certaine défiance envers la politique traditionnelle, les partis, mais peut-être aussi les organisations déjà existantes. Est-ce que vous êtes senti aussi un petit peu interrogé, interpellé par ce nouveau mode de mobilisation?
Tout d'abord, effectivement, nous, l'UNEF, on est une organisation de jeunesse et on porte un discours de transformation sociale. Et donc, que ce soit à la fois sur les étudiants, mais aussi sur leur insertion professionnelle, c'est des sujets qui nous concernent directement et qui sont importants pour nous de mettre en avant. Notamment sur le projet de loi travail, où dans les deux versions qui nous sont proposées, on nous propose, nous, en tant que jeunes, de devoir accepter, encore une fois, d'être précarisés encore plus quand on s'insère sur le marché du travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un vrai travail à la fois de pédagogie auprès des étudiants, auprès des jeunes sur ce projet de loi travail pour les appeler à se mobiliser et à appeler au retrait tout en poussant bien sûr des contre-propositions pour qu'on puisse avoir des avancées concrètes dès la rentrée prochaine pour les jeunes et c'est ce qu'on a eu comme engagement aujourd'hui. Et donc nous, en revanche, à l'UNEF, on appelle toujours les jeunes à se mobiliser, notamment il y a une date là, le 28 avril prochain, appelée par les différentes organisations syndicales pour pouvoir justement continuer la mobilisation sur le retrait de ce projet de loi. À côté de ça, effectivement, donc, il y a plusieurs formes de mobilisation qui ont découlé de cet élan contre le projet de loi travail.
Vous ne vous sentez pas dépassé?
Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, même dans les universités, aujourd'hui, quand on commence à faire des assemblées générales, c'est aussi les étudiants qui décident de leurs moyens d'action. Et donc ce n'est pas que l'UNEF, c'est les étudiants dans l'assemblée générale qui décident des moyens d'action qu'ils veulent utiliser pendant le mouvement étudiant. Nuit debout, à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant. Quand il y a une crise démocratique, quand on pense que le politique ne peut plus rien changer, comme c'est un peu le cas aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de jeunes donc d'étudiants, mais aussi de jeunes actifs, des salariés, qui viennent se rassembler à la République pour pouvoir débattre à la fois de la loi travail. Effectivement, c'est un sujet, mais pas que. C'est beaucoup plus large que ça. Et c'est comment on refonde aussi un nouveau modèle démocratique dans la société. Et donc moi, je pense que c'est quand même très intéressant comme débat. Et c'est surtout pas en opposition avec des moyens plus traditionnels qu'on pourrait dire, comme les manifestations auxquelles on appelle. Et donc nous, par exemple, des militants de l'UNEF, ils vont très régulièrement, quasiment tous les soirs, pour aussi débattre dans un autre domaine, dans une autre sphère, qui est aussi tout à fait intéressante. Et on verra bien la suite de ce mouvement, mais en tout cas, ce n'est pas du tout en opposition avec les différents moyens d'action.
À Paris et dans plusieurs villes de France, on avait besoin de parler de tout ça dans Rue des Écoles. Marie-Caroline, dernière question avant de refermer cette large parenthèse d'actualité.
On entend bien que vous jouez à plein le rapport de force avec le gouvernement en faisant glisser un mouvement sur le travail, un mouvement de jeunesse. Ça compte dans le bras de fer que vous êtes en train d'entamer. Pourtant, on l'a dit, cinquième semaine de mobilisation, il y a les vacances qui se profilent. Vous croyez vraiment au retrait du projet à ce stade?
Eh ben, nous, c'est pour ça, à l'UNEF, on le dit, dans les deux prochaines semaines, effectivement, nos moyens d'action vont être un peu différents. Vacances universitaires, vacances scolaires, début de préparation des examens. Et donc, effectivement, les moyens d'action vont être différents des cinq dernières semaines.
C'est-à-dire, vous allez faire quoi?
Et donc, ça va être notamment des actions locales, des rassemblements, des interpellations de parlementaires. Ça peut avoir différentes solutions, différents moyens d'action. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est préparer à la journée du 28, où là, déjà, des universités seront beaucoup plus rentrés et où on veut que les jeunes ils aient en tête cette date-là sur la question du retrait du projet de loi travail. Et donc on s'adapte au calendrier, mais c'est pas un handicap, c'est juste on multiplie nos moyens d'action et donc notre objectif.
Et vous y croyez au retrait?
On y croit, en tout cas on continue à se mobiliser et on continue à être en soutien à la mobilisation des salariés comme depuis le début sur leur mot d'ordre et sur la date de mobilisation.
Alexandre Leroy.
Grosso modo, vacances universitaires, changement de moyens d'action, l'UNEF lâche l'affaire. Non, nous, à la FAGE, on est à l'aise dans nos baskets. Hein, parce que depuis le 14 mars, on a dit, écoutez, avec les modifications qu'on a réussi à obtenir, parce que le 9 mars, quand on est allé voir Manuel Valls, on a eu un mot d'ordre qui était très très simple. La discussion ou la confrontation. On veut voir des points retirés de ce projet de loi et on veut voir des sécurités créées. Et déjà, le 14 mars, on a eu un plan avec la garantie jeune. Mais il n'y a pas que. On parle beaucoup de la garantie jeune, mais on parle peu du relèvement du plafond du compte personnel de formation jusqu'à 400 heures pour les précaires. Du fait de créer un droit universel à la formation. C'est marqué noir sur blanc. 700 millions d'euros. C'était un plan qui vise à permettre à tous les précaires, à tous les jeunes de se former. On a obtenu à ce moment-là. On a réussi effectivement à dire le sujet, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet jeune et on ne demande pas le retrait de ce projet de loi. Par contre, on demande au gouvernement, et on est quand même en 2016, de se mettre vraiment à la conclusion de sa priorité jeunesse. Parce que 2017 arrive vite et donc le moment du bilan pour savoir si on vit mieux qu'en 2012, il arrive vite aussi. Donc depuis le 14 mars, la FAGE n'appelle pas au retrait de ce texte, très simplement parce que les militants et les militantes de la FAGE ne veulent pas aller voir les jeunes précaires dont on n'a pas encore parler dans cette émission, qui ont obtenu la garantie jeune et leur dire, eh ben, le plus grand acquis, le plus grand filet de sécurité qui a été créé, et ça concerne quand même des centaines de milliers de jeunes, on va le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, la philosophie de ce texte, elle nous convient. On a retiré des mesures qui étaient vraiment agressives et régressives. On a créé un filet de sécurité et on n'a pas été dans le marchandage parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont fait confiance à la FAGE acceptent cette logique de se dire le dialogue social, on le rapproche de l'entreprise. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Quand je dis la FAGE est OK avec la philosophie de ce texte, elle est OK avec toute la philosophie de ce texte. Et je terminerai juste en disant que depuis qu'on a eu cette expression en mars, il s'est passé dans les universités 30 élections. Et bien la FAGE, elle en a remporté 22. Donc je pense que voilà, il y a aussi une forme de légitimité de cette parole dans les amphis.
On sent aussi que même sans qu'on vous le demande, vous vous justifiez. Concernant Nuit Debout, les nouvelles formes de mobilisation, ça vous intéresse aussi ?
Totalement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Nuit Debout. Je pense que tous les espaces où on crée de la matière intellectuelle et du débat de manière collective, ils sont bons à prendre. Maintenant, j'espère qu'un mouvement comme Nuit Debout arrivera aussi à traduire tout ça en changement. Et je pense que vraiment, c'est ce qu'ils veulent. Donc, Nuit Debout, je pense que c'est une bonne chose. Quand les citoyens vont sur les places pour discuter plutôt que pour autre chose, il faut tout le temps à la fois le prendre au sérieux et puis le permettre. Donc, c'est une bonne chose que ça puisse continuer. En tout cas, ça montre qu'il y a de la vitalité dans notre jeunesse, mais pas que. Et aussi dans chaque couche de la population, parce que j'ai vu que c'était assez hétérogène. Donc je pense effectivement que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est encourageant pour la vitalité démocratique dans notre pays.
On repasse au grand dossier du jour, la sélection à l'université. Marie-Caroline Missière, vous restez évidemment avec nous.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Touré.
Sélection à l'université, un sujet qui déclenche les passions. Les passions parce que on s'est mis à vouloir réglementer la sélection en Master 2. Il y avait un léger flou sur la question. Aujourd'hui, les textes se succèdent, les prises de position également. Alors, je vais vous en soumettre une. Paolo Tortonese, vous qui représentez ici l'association Qualité de la Science Française. Prise de position de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui avait qualifié la sélection de rétrograde et qui souhaite que le prochain décret soit très limitatif quant au nombre de Master 2 qui pourraient choisir leurs étudiants.
Oui, je pourrais commencer en vous faisant remarquer que Mme Vallaud-Belkacem, qui considère la sélection en rétrograde, s'est bien soumise à une sélection quand elle est rentrée à Sciences Po. La très grande majorité des élites françaises ont été sélectionnées.
Parce qu'elles ne sortent pas de l'université.
Exactement. Par un système de sélection à l'entrée, qui est le système des classes préparatoires, et qui est le système des grandes écoles. C'est une chose unique en Europe. La France a un système d'enseignement supérieur, double. D'un côté, classe prépa et grandes écoles, c'est-à-dire système hyper sélectif. De l'autre côté, système absolument non sélectif, qui est celui de l'université, parce que l'État, malgré le fait que nous sommes un régime, en principe, d'autonomie des universités, continue de interdire toute forme de sélection, quitte à nous autoriser de temps en temps à faire un petit master à part dans un coin qui serait sélectif. C'est la chose autour de laquelle tourne l'avis du Conseil d'État. Alors moi je suis vraiment très étonné à chaque fois que je parle avec les représentants des syndicats étudiants, comme aujourd'hui, l'UNEF et la FAGE, tout en se disant dans le mouvement social des jeunes, tout en se disant de gauche, tout en se disant progressiste, ils sont dans un aveuglement total. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez jamais du vrai problème qui est le double système. Première chose. Apparemment, que Sciences Po fasse la sélection, que les classes prépa fassent la sélection, ça ne vous gêne pas du tout. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est l'élite à laquelle vous appartiendrez, parce que vous ferez une carrière politique comme tous les dirigeants de l'UNEF. Les autres, les pauvres, les prolétaires, ils iront à l'université. Mais bien sûr, il ne faut pas les sélectionner. Comment voulez-vous, hein ? Sinon, le nombre de chômeurs va augmenter. Voilà à quel pacte social vous souscrivez, tout en vous disant de gauche. Merci.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Paolo Tortonese, vous avez mis les pieds dans le plat. Effectivement, système dual en France, est-ce que pour rétablir l'égalité, il faut mettre de la sélection à l'université? C'est la grande question. Mélila Lebas, on brûle d'entendre la réponse que vous allez opposer à Paolo Tortonese.
Plusieurs éléments, mais effectivement, vous soulevez un problème, c'est qu'il y a aujourd'hui deux systèmes en France très opposés, à la fois des classes prépa qui sélectionnent fortement et à la fois à côté l'université qui doit garantir, donc le service public d'enseignement supérieur, qui doit garantir à chaque jeune, après l'obtention d'un baccalauréat, d'avoir accès à un diplôme dans l'enseignement supérieur. Mais notamment, vous soulevez aussi quelque chose, c'est qu'effectivement, dans les classes préparatoires, on peut voir que la sélection sociale est quatre fois plus forte qu'à l'université. Quand on voit que dans les classes préparatoires, c'est plus de 40% de fils de cadres de fonctions supérieures et seulement 6% d'ouvriers, heureusement que l'université, elle permet à des jeunes de classes plus populaires de pouvoir accéder à un diplôme dans l'enseignement supérieur. Moi, aujourd'hui, je suis en master 1 à l'université de Créteil et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on garantisse aux jeunes d'avoir accès à différents niveaux de formation pour pouvoir justement avoir des qualifications, avoir un emploi qui leur convient et qui leur répond à leurs attentes sur le marché du travail.
Alexandre Leroy, de la FAGE.
Alors, pour réagir à tout ça, bon d'abord, moi je ne suis pas de gauche, moi je suis, en tout cas, je ne cherche pas à être de gauche, moi je cherche à être un représentant étudiant qui gagne des droits et surtout qui participe à créer un système qui tourne un peu plus rond. Quand vous dites le problème, c'est ce double système, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Moi je pense que le problème, il est lié à ce double système d'enseignement privé et puis d'enseignement public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on confie la responsabilité sociale de qualifier les jeunes et la population uniquement aux universités. Et on leur dit, vous devez assurer la mission de faire en sorte que nos jeunes acquièrent des compétences. Très bien, on en a besoin. Vous parliez d'économie. Je pense que c'est fortement corrélé au fait de pouvoir avoir une recherche et une qualification de la population qui marche. Mais on dit, voilà, à l'université, c'est votre job, c'est votre mission, vous allez porter votre croix. Et par contre, les établissements privés, bah, vous n'êtes pas chargés de cette responsabilité sociale. Et donc, on reconnaît parfois, dans des établissements privés, le droit. On reconnaît des diplômes et on ne leur demande aucune contrepartie. On les laisse sélectionner, on les laisse fixer des normes frais d'inscription. Donc, l'université, d'un côté, on lui donne une mission en tant que société, c'est important, mais on lui donne pas les moyens d'aller sur cette mission. Donc je pense que le vrai problème, c'est que si en tant que société, on dit à l'université, c'est votre responsabilité de qualifier nos jeunes, et ben il faut lui donner ses moyens. Et les budgets des universités, elles n'augmentent pas, alors que la population universitaire, elle augmente. Donc je pense que la sélection, encore une fois, c'est un faux débat. Je préfère qu'on débatte de comment on fait en sorte que les jeunes réussissent. Quels critères en termes d'acquisition de compétences, on fixe à la fin d'une licence. Parce que la seule sélection, elle devrait être ici. Valider une licence, c'est valider le référentiel de compétences qui y est attaché. Et rien que ça, ça devrait automatiquement donner le droit à poursuivre en master. Donc, il ne faut pas poursuivre les faux débats. Le vrai débat, c'est si on dit l'université, vous êtes chargé de qualifier les jeunes parce que socialement, on sait que pour notre société, c'est important d'avoir des jeunes qui ont des diplômes, qui ont des compétences pour affronter le monde de demain. Très bien, je pense qu'il faut le faire. Mais dans ce cas-là, il faut mettre l'argent sur la table. Et il faut aussi se dire que voilà, la sélection, savoir comment on sélectionne les gens, c'est un faux problème. Je préfère qu'on explique comment on les fait réussir et comment on donne les moyens à cet opérateur public qu'est l'université de réussir la mission qu'on lui confie en tant que société.
Paolo Tortonese, une université qui n'est pas en mesure de faire suffisamment réussir
Absolument.
Les jeunes.
Et aussi un système d'aide aux études qui n'est pas en mesure de faire en sorte qu'un étudiant qui n'a pas une famille qui le soutient fasse ses études. Moi, encore une fois, je suis plus qu'étonné de voir la représentante de l'UNEF vanter comme une grande conquête le fait que vous avez arraché des bourses à 1000 euros par an. Mais comment pensez-vous vivre avec 1000 euros par an?
C'était
des bourses à 0 euros qui étaient limitées à l'exonération des frais d'inscription. Une belle invention de Madame Fiorazzo qui nous a donné des étudiants qui se sont inscrits à la fac uniquement pour la mutuelle et qui sont partis au bout de 2 mois. Ça, c'était le résultat. Maintenant, on passe à 1000 euros par mois. À 1000 euros par mois, tous nos boursiers ont un job. Tous nos boursiers ont un job aujourd'hui. Et vous contentez de cette ridicule suppression de la...
Vous parlez du fait qu'ils travaillent en même temps qu'ils étudient, qui peut mettre leur réussite en péril.
Ils ne peuvent pas, comment voulez-vous vivre? La bourse la plus haute en France, c'est 5000 et quelques, vous le savez mieux que moi. Hein, c'est 400 euros par mois. Comment voulez-vous vivre à Paris ou dans n'importe quelle grande ville universitaire avec 400 euros. Alors, vous vous contentez d'une absurde politique économique, puisqu'on parle d'argent. Parlons d'argent. Hein, vous soutenez l'APL. Vous savez ce que ça coûte? L'APL, ça coûte 1,7 milliard
millions.
Qu'est-ce que vous proposez?
L'APL, ce sont les allocations.
Les allocations pour le logement. Hein, tous les syndicats étudiants l'ont voulu, c'est-à-dire vous voulez toujours une politique d'arrosage absurde où on donne des sous à tout le monde et à n'importe qui et on leur donne très peu. Évidemment, on ne peut pas donner beaucoup d'argent à tout le monde. Pourquoi on ne devrait pas faire une politique contraire, c'est-à-dire croiser les critères de mérite et les critères sociaux et faire en sorte qu'on donne des vraies bourses dignes d'un pays riche comme la France, cinquième puissance économique au monde, hein, et qui permettent aux jeunes de faire des études vraiment et jusqu'au bout. Et les sélectionner, bien sûr, les sélectionner, parce que je veux donner beaucoup d'argent à ceux qui le méritent, à ceux qui ont les capacités, à ceux qui travaillent, à ceux qui sont intelligents et ceux qui arrivent à obtenir un diplôme. Parce que le mot d'ordre de l'UNEF que je vois dans toutes vos affiches me fait horreur, tout simplement. La réussite est un droit. Eh bien, non. La réussite n'est pas un droit. Les études sont un droit. L'accès au savoir est un droit pour tout le monde. Mais personne n'a le droit d'emblée à avoir 20 sur 20 à toutes ses copies. Personne n'a le droit d'emblée à obtenir un diplôme. Ça ne sert à rien.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle la réussite. Le droit, c'est aussi celui de Lila Lebas de vous répondre.
Là, vous abordez quand même différents sujets. Déjà, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Aujourd'hui, on ne pense pas qu'avoir 100 euros par mois, c'est suffisant pour pouvoir vivre dans n'importe quelle ville universitaire de France. On ne pense pas que c'est suffisant et qu'effectivement, un étudiant sur deux aujourd'hui est salarié, malheureusement, puisque c'est la première cause d'échec à l'université. Par contre, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'accepte pas ces 100 euros par mois pour tous les étudiants qui sont dans la galère et qui connaissent à la fin du mois la carte bleue bloquée et qui ne pourront pas manger. Et donc ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on ne partira pas sur cette question-là, mais sur la question de la réussite est un droit. Et sûr, il faut sélectionner les plus méritants, ceux qui auraient, eux, le droit, la chance de pouvoir faire des études. Moi, je me demande comment, après un baccalauréat, alors que les étudiants, les jeunes lycéens, ils ont obtenu leur baccalauréat, vous allez juger quel étudiant va pouvoir avoir une licence de droit, une licence de psycho, alors que même ces matières-là, ils n'ont même pas fait au lycée. Il n'y a pas forcément de droit au lycée. Et donc, comment, après un bac général,
simple,
par exemple,
on prendra ceux qui ont les meilleures notes au lycée.
Et donc, les autres,
selon les disciplines. J'avais des mauvaises notes en maths, on ne m'aurait pas pris dans une faculté de mathématiques. J'avais des bonnes notes en littérature, et il est logique qu'on me prenne dans une faculté de littérature. C'est tout aussi simple que ça.
Mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez sérieusement,
oui,
sans blague, que former moins de jeunes en 2016, c'est une politique d'avenir?
Mais non.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas sérieux de dire qu'on va envoyer moins d'étudiants à l'université.
Pour appuyer ça, pour le coup, on a un vrai point d'accord.
Vous me faites dire quelque chose que j'ai pas dit.
Il y a des enquêtes qui montrent que d'ici 2020, on va manquer de jeunes diplômés en France. Je pense qu'aujourd'hui, se dire qu'on va former encore moins de gens, qu'on va baisser le niveau de qualification de milliers de jeunes en France, ça va être un vrai problème. Et je pense que c'est vraiment pas la réponse qu'on doit apporter aujourd'hui à tous les jeunes qui cherchent à se former, à avoir des qualifications, à avoir un travail qui leur convient sur le marché du travail.
Avez-vous réfléchi à quelque chose? Il y a des pays où les universités choisissent leurs étudiants. C'est-à-dire, on fait une demande, il y a un dossier, les universités regardent les demandes et, par exemple en Angleterre, acceptent ou pas les étudiants. Ne parlons pas de la question des frais d'inscription, mettons-la de côté pour l'instant. Ça va ensemble, mais ça peut s'articuler de différentes manières. En Angleterre, non seulement ça coûte très cher, mais en plus c'est sélectif. Est-ce que vous pensez qu'en Angleterre, il y a moins d'étudiants qu'en France?
Non, mais je pense pas.
Eh bien, non. Il y en a autant qu'en France, dans un pays qui a la même population. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il y a moins d'étudiants qu'en France? Attendez un instant. Il faut réfléchir sur les données telles qu'elles sont. Aux États-Unis, système que je n'admire pas particulièrement et que je me garde de proposer pour la France, il y a plus d'étudiants de supérieur que dans les pays européens. Nous l'oublions pas. Alors, sélectionner partout et répondre aux besoins de sélection que la société exprime, qui est extrêmement fort, et vous le savez très bien, les familles veulent que leurs enfants soient sélectionnés, signifierait simplement donner à toutes les institutions d'enseignement supérieur, y compris les universités, la possibilité de sélectionner. Ce qui veut dire le droit de sélectionner et ce qui veut dire le droit de sélectionner au niveau que chaque université choisira. globalement, on n'aura pas moins d'étudiants.
On a deux modèles de société qui s'affrontent et visiblement, on ne partage pas les mêmes idéaux sur ces questions.
Sans doute.
Qu'as-tu vu de la fête cette fois? Elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois.
Rue des Écoles, nos invités s'écharpent sur la sélection à l'université. Ce sont presque deux projets de société qui s'affrontent. On l'a dit, Paolo Tortonese de l'association Qualité de la Science Française, vous avez dit, les familles veulent de la sélection. Marie-Caroline Missire a une question à ce sujet.
Oui, je boue en vous entendant depuis le départ, puisque vous êtes partie déjà sur un mauvais constat. Quand vous avez dit que, a priori, l'université est réservée, est ouverte aux familles défavorisées ou aux jeunes défavorisés, aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Les familles défavorisées, les familles peu informées, mal informées, elles ont peur de l'université. Elles n'y envoient pas leurs enfants parce qu'elles savent que leurs enfants vont échouer dans les universités. C'est ça qu'il y a dans les familles défavorisées aujourd'hui. Les familles défavorisées, elles n'envoient pas leurs enfants dans les prépas. Leurs enfants, la plupart du temps, ils sont orientés en bac professionnel, et je reprends forcément le terme, ils sont orientés de forme passive, et s'ils ont la chance d'atteindre l'université, il faudra les armer, les accompagner, les aider effectivement à réussir leurs études avec tout un aéropage d'aide sociale, puisqu'ils ne sont pas armés comme les autres pour réussir à l'université. Et c'est bien le drame. Donc déjà, au départ, le débat est faussé. L'université n'est pas un lieu égalitaire. Il faut arrêter avec cette idée. C'est un lieu profondément inégalitaire. C'est un lieu qui pratique une sélection très forte, une sélection très rude et une sélection cachée, donc perverse. Je considère aujourd'hui que la sélection n'est pas assumée officiellement par l'université.
Elle est parfaitement assumée,
absolument
nous la défendons.
Pas.
À la fin de chaque année, ceux qui n'ont pas le niveau ne passent pas à l'année supérieure.
Demandez à la ministre et au secrétaire d'État si l'université sélectionne aujourd'hui, ils vous diront non, le Conseil d'État a répondu que la sélection est illégale. C'est hypocrite. Et le gouvernement s'est embarqué a ouvert une boîte de Pandore avec cette affaire et il est mal parti.
Alors, Marie-Caroline Missire, soyez un tout petit peu plus claire, là c'est presque un éditorial. Quand on dit sélection cachée, sélection perverse,
c'est qu'elle arrive plus tard, elle arrive après la licence, elle arrive en master. Bon, la question que pose aujourd'hui le gouvernement, c'est de dire, ok, le Conseil d'État a dit la sélection est illégale, mais on va faire une petite liste de masters qui sélectionnent, comme ça on sera tranquille. Et on voit bien qu'à partir du moment où on s'engage dans cette voie, eh ben les universités réagissent très mal. Parce qu'elles disent, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos masters qui sélectionnent aujourd'hui? On va les fermer. Et c'est le sens de la réaction de 5 présidents d'université qui, en voyant le projet de liste qui est préparé par le gouvernement, en disant au secours, la liste est trop réduite, on n'est pas assez nombreux sur cette liste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va accueillir 300 étudiants dans des masters qui peuvent en accueillir 30. Donc on va les fermer. Donc le gouvernement est dans un corner et je me demande bien comment ils vont en sortir.
Marie-Caroline Missire, juste un mot. Vous aviez réalisé avec l'étudiant un baromètre, un sondage sur cette question. Que disait-il ?
Absolument. Très récemment, on a sondé les étudiants pour savoir ce qu'ils pensaient de la sélection en master. Ils sont majoritairement favorables à la sélection. Il faut le dire, aujourd'hui, l'opinion et les étudiants ne partagent pas forcément la position de l'UNEF sur cette question. Je vous renvoie à ce baromètre exclusif qu'on a publié il y a un mois sur le site de l'étudiant et sur EducPro. Le sentiment des étudiants sur la sélection et sur ce que pèse la sélection pour leur avenir et pour leur employabilité a changé. Et ils y sont globalement plus favorables.
Lila Lebas, on vous interpelle sur plusieurs points là,
sur
cette peur aussi d'une université qui promet les étudiants les moins préparés à l'échec. Et quand on parle des étudiants les moins préparés, on parle de ceux qui sortent de filières professionnelles, qui viennent de familles qui ont moins les codes, entre guillemets, c'est-à-dire les familles les plus populaires. Certes, ils ne sont pas sélectionnés, mais finalement, ce sont eux qui échouent le plus.
Oui, effectivement, il y a une sélection sociale qui s'opère à l'entrée de l'université quand, aujourd'hui, la question pédagogique, le suivi pédagogique, quand on se retrouve à 400, 500 en amphithéâtre en début, en première année en licence, et qu'on vient d'un bac pro ou d'un bac techno, effectivement, on n'a pas les codes pour pouvoir prendre des notes, suivre des cours, et donc on a plus de difficultés à pouvoir valider notre année. Et donc ça, effectivement, nous, là-dessus, à l'UNEF, on a des revendications pour que, justement, on permette à ces jeunes-là, qui, souvent, n'ont pas eu accès aux filières de leur choix sélectives en amont, BTS, IUT, etc., qui se retrouvent à l'université sans les moyens pour pouvoir réussir. Et donc ça, effectivement, c'est un vrai problème. Et donc, je disais pas que l'université permettait à tout le monde de réussir aujourd'hui. J'ai juste qu'il y avait un parallèle entre des filières sélectives, comme par exemple les classes préparatoires, où là, le nombre d'enfants, d'ouvriers étaient de base très faibles, et à l'université où justement ces jeunes-là, diplômés de bac techno ou bac professionnel, se retrouvent à l'université, notamment souvent, soit par faute d'information, soit par manque de place dans les filières qu'ils ont choisies au préalable après l'obtention de leur baccalauréat. Sur la question effectivement ensuite de la sélection en Master 1 ou en Master 2, à quel niveau on préfère sélectionner les étudiants, nous on pense juste par exemple à l'UNEF que se dire qu'on va limiter le nombre d'étudiants qui arrivent en Master 1 ou qui arrivent en Master 2, c'est encore une fois permettre de baisser le niveau de qualification des jeunes aujourd'hui, alors que le Bac plus 5 aujourd'hui, c'est la norme sur le marché du travail, et quand on n'a pas un Bac plus 5, c'est déjà plus compliqué pour trouver un emploi après. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, la solution, notamment, effectivement, il y a des experts du ministère de l'Enseignement supérieur qui, en prenant en compte la situation actuelle des universités, chiffrée à une trentaine de masters 2 sélectifs dans leur projet, notamment qui va paraître dans les prochains jours pour le CNESER de lundi prochain, et notamment en prenant en compte le goulot d'étranglement qui existe aujourd'hui entre le Master 1 et le Master 2, qu'est-ce qui existe effectivement. Mais donc nous, on pense aujourd'hui, il faut permettre à ces étudiants de ne pas s'arrêter à Bac plus 4, mais d'avoir accès à un Master 2 dans leur grand domaine de formation, dans leur université, pour justement finir leur cursus universitaire dans les meilleures conditions possibles.
On sait qu'en France, le diplôme revêt une importance exceptionnelle, même par rapport aux pays qui nous ressemblent, aux autres pays européens par exemple. Exceptionnel dans le destin des individus, c'est ce premier diplôme qui va conditionner presque toute l'existence. Alors Bac plus 3, Bac plus 5, ça va sanctionner la valeur des individus. Est-ce que c'est pas plutôt contre ça qu'il faut se battre? Parce que à la fin de la course à l'échalote, vous aurez que des... On pourrait n'avoir que des doctorants qui ne trouveront pas forcément un travail à la hauteur de leur qualification.
Ça,
d'ailleurs,
c'est surtout, notamment, c'est d'appeler un peu le débat sur la question aussi de la reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives, dans les entreprises, etc., pour que chaque jeune, quel que soit son niveau de qualification, ait un emploi qui corresponde à celle-ci et un niveau de rémunération qui corresponde à son niveau de qualification. Donc ça, effectivement, c'est un débat que nous on pose aussi à l'UNEF, puisque pour que chaque jeune qu'il ait un diplôme, que ce soit un BTS, un DUT, une licence, un master ou un doctorat, pour qu'il soit payé, rémunéré à la hauteur de ses qualifications. Ça, effectivement, c'est un débat, mais je pense qu'il se déplace un peu de la question de l'accès à tous, d'une formation qualifiante et du plus haut niveau possible, sans mettre de barrières sélectives tout au long de l'université.
Alexandre Leroy.
Oui. Peut-être pour revenir sur ce baromètre qui explique, qui montre hein, qu'il y a une majorité d'étudiants qui sont d'accord avec la sélection de l'étudiant, c'est ça, qui sont d'accord avec la sélection en master. Mais je peux les comprendre au final, ces étudiants. Je peux les comprendre parce qu'au final, on a quoi comme gage de qualité d'une formation aujourd'hui en France ? Et c'est malheureux, à part la sélectivité. Et c'est vraiment triste. Et effectivement, dans une période...
C'est la sélectivité qui donne une impression de qualité.
Parce qu'on a que ça. Et dans une période où on a 20% de chômage et où effectivement le master, le bac plus 5, ça reste le ticket pour l'emploi, en tout cas le référentiel, et bah forcément, on crée de l'angoisse. Maintenant, ce que nous propose d'un côté QSF, ou ce que nous propose de l'autre l'UNEF, ou même le gouvernement, pour nous, ça ressemble un petit peu à du bricolage. Il faut s'autoriser un peu de courage quand on pense à ces questions-là. Et là, quand je parle de courage, je m'adresse directement aussi
vous
à la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Mais oui, parce que notre position est courageuse. Aujourd'hui, on propose de réformer globalement le master. Savoir, est-ce qu'on met la sélection M1 ou M2 aujourd'hui, le master, on est quand même passé sur un cycle master.
Bac plus 5.
Voilà. Mais, oui, mais...
parle comme les vieux.
Parlons des vieux. Les vieux, ils ont connu le DEA, le DESS. Bah, au final, on est toujours en 2016.
Dites.
On est toujours en 2016 dans ce même schéma. On n'a pas avancé. Et j'aimerais poser la question, une question un peu plus de courage. Il faudrait peut-être se poser deux choses. Est-ce qu'on va enfin réformer notre premier cycle, notre licence, pour en faire quelque chose de professionnalisant ? Est-ce que c'est normal que
professionnalisant, c'est pas l'identité.
Mais bien sûr que si. Et d'ailleurs, si l'université avait accepté, quand on l'a refondée dans les années 60, de se dire qu'elle devait aussi apporter des connaissances, des compétences professionnelles aux jeunes, on n'en serait peut-être pas là. Donc je pense qu'il est absolument urgent de refonder notre premier cycle et de se demander à quoi sert ce premier cycle. Et je serais peut-être un peu provoque aussi, et de changer la manière dont on pense ce premier cycle en se demandant, est-ce que finalement, quand quelqu'un rentre dans une licence, je vais prendre mon cas, licence d'histoire, est-ce qu'on doit tout faire pour qu'il aille le plus vite possible, qu'il valide et qu'on lui donne un diplôme ? Mais si on construisait un premier cycle où on était en capacité d'avoir plus de spécialisation progressive, plus de pluridisciplinarité, des passerelles entre les formations et de certifier des blocs de compétences, eh ben on pourrait laisser des jeunes s'orienter un petit peu à la carte, au cœur d'un diplôme, et éviter la situation dans laquelle on se trouve, où on arrive avec une licence qui, au final, n'est pas un gage pour l'emploi. Donc, la question de est-ce qu'on sélectionne entre la licence et le master n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas réformé profondément le master pour en faire un bloc cohérent de 4 semestres, ce qu'on demande à la ministre, et tant qu'on n'a pas engagé une vraie réflexion sur à quoi sert notre licence dans le pays, parce qu'on est quand même en 2016, quand est-ce qu'on va enfin vraiment adosser les enseignements à des compétences, quand est-ce qu'au final, on va repenser ce que c'est qu'une licence et un master à l'université, parce que si on dit à l'université, votre boulot, aux yeux de la société, c'est de qualifier les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent être autonomes et émancipés dans leur parcours social, dans leur parcours professionnel. Eh bien, il est grand temps de faire passer l'université, elle aussi, au XXIe siècle.
Bon, des propositions, courageuses ou pas, les auditeurs jugeront. Vous avez parlé de la licence. Peut-être ne faudrait-il pas trop se dorer la pilule sur le niveau des étudiants qui rentrent à l'université. Je vous parle de ça, Paolo Tortones, mais je sais que vous voulez aussi réagir. Je vous parle de ça parce que de nombreux universitaires disent que le niveau des étudiants qui arrivent dans les cours en licence est un petit peu problématique aujourd'hui, par exemple sur le niveau de langue.
Le niveau est problématique en première année, beaucoup. Et c'est justement la question qui se pose. Vous parliez, Madame Messire, de sélection. Je voudrais, si vous permettez, faire quelques distinctions. Parce que parfois, ce mot semble recouvrir des réalités différentes. D'abord, sélection à l'entrée, sélection à la sortie, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense qu'aucune institution de formation ne peut survivre sur l'idée selon laquelle chacun a le droit à la réussite. Une institution de formation supérieure doit nécessairement évaluer la réussite des étudiants. Donc, constater quelquefois l'échec, quelquefois la réussite. Bien sûr, elle doit aussi mettre en œuvre tous les moyens qui sont dans ses possibilités pour aider à la réussite. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, autre chose. Il y a un grand mélange entre sélection à la sortie, qui est finalement l'évaluation des résultats, et les sélections à l'entrée. On ne peut pas, simultanément, empêcher la sélection à l'entrée de l'université et reprocher aux universitaires l'échec de la moitié de leurs étudiants à la fin de la première année, qui est un échec qui n'est pas tellement dû aux mauvaises notes qu'ils reçoivent, mais vous le savez très bien, aux abandons. À Noël, déjà 20% ou 30%, selon les formations, ont déjà quitté l'université. Alors, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution que de laisser rentrer tout le monde et avoir ce gâchis ? Est-ce que la meilleure solution aussi est, dans les filières qui ne peuvent pas intégrer et accueillir un nombre
excessif d'étudiants de faire ce qu'on fait aujourd'hui en droit, vous le savez très bien, c'est le tirage au sort. Je crois que si vous racontez à n'importe qui, dans n'importe quel pays au monde, qu'en France, on tire au sort pour faire rentrer les étudiants dans une université, il ne va pas vous croire tellement la chose lui semblera absurde. Est-ce que vous préférez ça à une chose honnête, claire, qui est de dire à un bachelier, voyons tes résultats dans les différentes matières et essayons de voir si tu peux aller dans la formation qui est adaptée à tes exigences, à ton niveau, à tes résultats dans les différentes matières. Est-ce que, il me semble que la deuxième solution serait plus intéressante, plus juste, plus respectueuse des individus et aiderait nécessairement aussi les lycées. Parce que s'il y avait une sélection à l'entrée de l'université, cela aurait des retombées très favorables sur les lycées, dans le sens que les lycéens seraient dans une certaine tension vers la réussite et ils voudraient faire mieux pour pouvoir, non pas tout simplement et d'une manière générale, aller dans le supérieur, mais aller là où ils veulent. Et finalement, il y aura de la place pour tout le monde, puisque toutes les universités ne sélectionneront pas au même niveau.
Et on peut rappeler que tout de même, l'université sélectionne dans certaines disciplines. Oui, on parlait de la médecine, par exemple.
Alors, la médecine, c'est un cas très particulier. La médecine, c'est vraiment un fonctionnement tout à fait particulier. Elle sélectionne à la fin de la première année, vous le savez. Mais il faudrait peut-être ajouter quelque chose. Je ne vous ai pas répondu sur ce point. Les universités, en effet, ont opposé à l'interdiction de la sélection, à tous les niveaux et au niveau du master, la création, qui a été poussée par le ministère aussi, de quelques masters sélectifs particuliers. Personnellement, je ne suis pas d'accord sur cette politique. Je pense qu'il faut donner le droit à la sélection à tout le monde et qu'il y ait de la sélection partout, à l'entrée et à la sortie.
La sélection comme un droit, mais un droit pour les universités, pas pour les étudiants.
Mon mot d'ordre, c'est la sélection pour tous.
Marie-Caroline Missire.
Ce que vous avez décrit comme système, à savoir lister les compétences, les aptitudes, les points forts des lycéens et faire coïncider un choix d'études supérieures, ça s'appelle admission post-bac.
C'est oui, le vous système. Vous savez comment fonctionne la mission de post-bac aujourd'hui?
C'est la tombola. C'est toute la question. Il y a vraiment un sujet autour du fonctionnement d'admission post-bac.
Puisque nous n'avons pas le droit.
Il y a déjà un système qui organise.
Nous n'avons pas accès au dossier. C'est le ministère qui décide.
Moi, je vous propose juste des lycéens. De ne pas parler en même temps parce qu'on ne vous entend pas bien.
En tout cas, une grande partie des lycéens, avant même d'obtenir leur baccalauréat, aujourd'hui, inscrivent des choix dans ce logiciel et en fonction de leurs résultats scolaires, avant même d'avoir leur diplôme, sont admis dans tel et tel cursus. Et il y a certaines entrées à l'université où les places ne sont pas extensibles et où du coup, leur choix, même s'ils veulent s'inscrire dans telle et telle licence, ils ne le peuvent pas. Ce que vous pointez assez bien sur l'échec en licence, c'est la question de la pédagogie. La question qui doit déjà être posée en lycée, on le dit régulièrement dans cette émission, Louise, à savoir comment on prépare les lycéens à devenir des étudiants et comment on évite l'échec en licence. Et la pédagogie à l'université, c'est un vaste sujet, mais je signale quand même qu'aujourd'hui, LinkedIn a publié une étude assez remarquée.
Alors LinkedIn, c'est le réseau
social des professionnels, absolument. Et qui dit quoi? Qui dit que les recruteurs aujourd'hui, quand ils veulent recruter un jeune, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est pas les stages, c'est pas forcément le diplôme, encore que. C'est surtout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences un petit peu immatérielles, un petit peu comme ça, basées sur l'adaptabilité, la créativité, ce que dégage un jeune en entretien. Donc là, vous voyez bien que même le débat sur la sélection dépasse complètement celui de l'employabilité d'un jeune. Aujourd'hui, même avoir un diplôme sélectif, même avoir un master, ça garantit absolument pas que ce jeune-là va réussir à décrocher son job en entretien. Le débat se situe encore ailleurs sur des compétences numériques transversales qui sont difficilement évaluables. Et quand on n'a pas les codes, c'est encore plus compliqué.
Mais ça, c'est une autre grande illusion soutenue en même temps par le pouvoir, par tous les gouvernements de droite et de gauche depuis plusieurs années et par tous les syndicats étudiants. C'est le grand mot d'ordre illusoire de la professionnalisation. La professionnalisation telle que vous la concevez, c'est-à-dire l'idée que l'université produit de la force de travail parfaitement adaptée aux besoins de l'industrie ou du tertiaire ou de tout ce que vous voudrez, est une absurdité.
Mais aucune. Parce que on vient si, d'un monde où vous voulez tout programmer, vous avez inventé le libéralisme soviétique,
vous voulez tout programmer. D'une part, on fait tout ce qu'on veut.
Vous adressez comme
oui,
vous
je m'adresse à ceux qui nous gouvernent et que vous soutenez. C'est-à-dire à ceux qui nous racontent que les universités sont autonomes et en même temps inventent l'admission post-bac, où, je vous rappelle, c'était Madame Pécresse, hein, Madame Pécresse, gouvernement de droite,
gouvernement précédent.
Mettre en concurrence les universités, et puis elle-même, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide que l'État, à travers l'affectation post-bac, décide si un étudiant parisien qui veut faire de la médecine doit aller à Paris 5 ou à Paris 6. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'a pas le droit de choisir ? Pourquoi il n'a pas le droit d'aller dans l'université où il veut
c'est
aller ?
Quand même
non,
le propre
il
du
ne
système
choisit
de
pas.
Mais je vais
il
vous
ne
répondre.
Choisit
je,
pas.
Je
c'est un
répondre.
Mensonge. Il ne choisit pas.
Je vais vous répondre sur cette histoire de complot libéral soviétique d'admission post-bac. Effectivement, je pense que si on est d'accord, et on semble l'être, sur le fait que socialement, on a un vrai enjeu, au niveau de, même sociétalement, on a un vrai enjeu à qualifier plus de jeunes, la question à se poser, c'est ce qui devrait être le seul prérequis de l'accès en licence, c'est le fait d'avoir validé son lycée par le baccalauréat. S'il y a un problème de niveau, peut-être qu'il faut commencer par là. Commencer par le lycée et se dire comment on évalue la dernière réforme, comment on le réforme à nouveau, hein, ce qui est une demande de la FAGE, qu'est-ce qu'on fait du bac. Même chose en master. Le prérequis d'accès à un master, ça devrait être le fait d'avoir validé les compétences rattachées à sa licence et la pertinence, la continuité de la mention. La FAGE, on propose quelque chose de très très simple pour fluidifier le passage entre licence et master. C'est de créer, tout comme APB, un système d'admission post-licence. Grosso modo, vous avez une licence, selon sa mention, par exemple, c'est mon cas, histoire, eh ben, vous avez un accès de droit à des masters en histoire, des masters en archivistique. Mais je ne dis pas que vous avez...
Mais
attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer.
Pourquoi c'est l'État qui doit choisir ?
Je pense que vous avez peur de la modernité.
Ah non, je n'ai pas peur de la modernité. Vous conservez le statu quo depuis longtemps.
Je termine. Laissez-moi terminer ma démonstration. Je ne suis pas en train de dire que chaque jeune va avoir le droit au master de son choix. Le système d'admission post-licence, ça permet surtout à garantir à chaque jeune d'avoir le droit à un des masters de son choix compatible avec la mention de sa licence. L'idée, c'est que on puisse faire un certain nombre de vœux et que le système soit garant que l'étudiant sera retenu sur un de ses vœux compatible avec la mention de sa licence.
C'est
un système où vous faites des vœux, c'est comme admission post-bac. C'est la même chose. Avec un système comme ça, mais non, c'est les équipes pédagogiques qui vont s'exprimer. Et ben je vous invite
si
à aller lire les contributions. Je vous invite à aller lire la position
de la
FAGE. C'est dommage parce qu'on est en train de dossier,
il est impossible qu'ils choisissent aujourd'hui dans l'admission post-bac.
On siège dans les mêmes conseils.
En première année, les universités ne sont pas même consultées. C'est APB qui décide.
On siège dans les mêmes conseils et je suis au regret de constater que vous ne prenez même pas le soin de lire ce qu'on propose et de lire ce qu'on met à l'ordre du jour des classeurs.
Rapidement, pour terminer l'heure à tourner. Je vois que le débat est passionnant, mais notamment vous disiez beaucoup de choses sur la question des jeunes décrocheurs au bout de 3-4 mois à l'université. Je pense qu'il y a un vrai travail sur l'orientation aussi des étudiants. Aujourd'hui, on sait très bien que les services d'orientation sont dépassés puisqu'ils sont très peu nombreux au lycée. Et donc que les jeunes aujourd'hui, des fois, ils n'ont même pas accès aux informations de quelles formations peuvent être plus appropriées pour eux selon leurs résultats et leurs envies, surtout professionnelles. Donc je pense qu'au-delà de la sélection, surtout un système d'information pour les étudiants, enfin pour les jeunes lycéens, qui puissent choisir en toute connaissance leur diplôme et leur formation future. Mais juste pour revenir sur le master, c'est là où on a un vrai désaccord avec la FAGE sur leur concept d'admission post-licence. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne choisit pas son master ? Ça veut dire qu'on va jusqu'où ? Qui sélectionne ? C'est-à-dire qu'il faut bouger sur le territoire pour faire un master 1, donc on sélectionne encore plus socialement pour pouvoir avoir accès à un master 1 si on n'a pas les moyens de se déplacer partout en France. Et donc du coup, nous on pense que chaque étudiant qui a diplômé d'une licence, il doit avoir le droit à une formation dans ses grands domaines de formation, dans son université, pour continuer sa formation dans les meilleures conditions.
Et donc qu'est-ce qu'on fait s'il y a 600 candidats à un seul master ? Et je terminerai sur cette question, je te laisse y répondre.
C'était la conclusion, enfin de point d'interrogation de cette émission sur la sélection à l'université. J'espère que cela vous aura permis, chers auditeurs, de vous faire une opinion. Merci à nos invités, Paolo Tortonese, Lila Lebas et Alexandre Leroy. Merci, Marie-Caroline Missire. Que vous ayez écouté cette émission ce dimanche 17 avril ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag RDE. La semaine prochaine, nous parlerons des EdTech, les nouvelles technologies de l'éducation. Dans quelques secondes, vous retrouvez Le Monde selon Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.